Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
De Chavanne cherche copain. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Oui. De Chavanne cherche copain. De copain. De Chavanne cherche copain. A tout de suite, les amis.
Je me demande si c'est pas la première fois que je rencontre de près une activiste.
C'est vrai? Ah ouais. Oh. Ça va, ça se passe bien.
Parce que Camille Etienne, vous êtes une activiste.
Je suis une activiste.
Ou une militante.
Moi, ça me va.
C'est quoi la différence?
Je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Moi, j'aime bien le mot activiste, j'aime bien les mots, je le trouve plus joli. C'est tout.
Il est plus fort.
Il est plus fort aussi. Moi, je me définis comme ça, mais tout le monde peut être activiste. Pour moi, c'est juste une manière d'être au monde qui est de dire on choisit la lucidité tout le temps. Pour moi, c'est ça, être activiste. Donc, c'est à la portée de n'importe qui.
Il y a peut-être des gens qui n'habitent pas le pays ou qui ne connaissent pas la star, entre guillemets, que vous êtes, parce qu'à 24 balais ou 25 bientôt, vous êtes une star. Moi, je vous connais depuis plusieurs années déjà. Je vous ai beaucoup lu, entendu... écoutez...
Ça fait plaisir, je savais pas.
Je suis très très inquiet et très passionné par l'écologie et l'environnement. Mm. Et je trouve que le monde dans lequel on vit est absolument dramatique. Et alors si on vous dit, vous êtes la Greta Thunberg française, vous dites quoi?
Ça me fait toujours bizarre d'être définie par quelqu'un d'autre, mais c'est le jeu médiatique.
Hein,
et en même temps, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
Elle est internationale.
J'ai eu la chance de rencontrer sur différents combats internationaux, européens. Et c'est quelqu'un qui a une force immense, qui n'a pas envie d'être là. C'est assez fascinant. On voit qu'elle fait un devoir parce qu'il y a quelque chose de plus grand dans ses tripes, quoi. Et je le ressens un petit peu aussi, ça. Donc c'est un honneur de battre. On a des quotidiens différents et on n'a pas les mêmes modes d'action, mais c'est intéressant.
Vous ressentez de la misogynie comme elle a pu ressentir, parce qu'elle s'est fait défoncer par des milliers, des millions de d'hommes, d'articles même, enfin de politiques, de gens. Qu'est-ce que c'est que cette pauvre gamine qui va nous apprendre la vie? Ben oui, en fait.
Exactement.
Parce que vous apprenez à vos âges la vie à nous, les vieux, et les vieux cons parfois, qui ne veulent pas voir la réalité en face.
Non, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui ont pris un petit peu sur le devant de la scène ce combat-là, et même historiquement, et même partout sur le territoire, pas ce qu'on voit devant les caméras. Hein. Réellement, on regarde dans les études sociologiques, sur le terrain, c'est plus les femmes qui prennent ce combat à bras-le-corps. Et donc, on dérange un monde en place. Et donc, on va déranger aussi par le fait qu'on soit jeune, qu'on mette en...
Le fameux patriarcat.
Qu'on bouscule à la fois le patriarcat, à la fois le système économique, à la fois le système politique. Ça fait beaucoup pour certains. Donc oui, c'est violent. Et après, on a de la chance d'être en contact avec des activistes partout à travers le monde, dont une qui s'appelle Vanessa Nakate, qui se bat en Ouganda. Et je sais qu'elle risque littéralement sa vie à chaque fois.
Carrément, oui.
Ou même avec des activistes du Brésil, du peuple autochtone. Je sais qu'eux, ils risquent leur vie à chaque fois. Donc, c'est pas facile de risquer en France la prison, de risquer les violences policières quand on est en manifestation, d'avoir cette violence verbale aussi, de l'exposition notamment de la part des hommes. Mais en même temps, à chaque fois, je me dis, bon...
C'est pas votre peau.
J'ai quand même, voilà...
Là-bas, c'est leur peau.
Là-bas, c'est leur peau.
Et encore, heureusement, on peut remercier la réélection de Lula qui a stoppé... Tous les programmes dégueulasses que Bolsonaro avait laissé mettre en place pour la déforestation et autres incendies méga gigantesques pour je ne sais pas quoi.
C'est une très très bonne nouvelle pour le climat et d'ailleurs depuis qu'il est rentré en poste, la déforestation a commencé déjà à baisser.
C'est fou.
En quelques
millions d'hectares.
Ouais, littéralement. Comme quoi, faut voter. Comme quoi, on se rend compte dans ces moments-là que la personne qui décide un pays, même si on ne peut pas tout attendre de lui ou d'elle, précisément, c'est important quand même de lui mettre...
Comment on peut expliquer que les climato-sceptiques, les mecs qui se foutent de l'environnement, les mecs qui n'y croient pas, se rapproche des mouvements anti-vax, se rapproche des mouvements de très à droite. Comment on explique ça? Pourquoi est-ce que souvent la droite dure va avec la climato-sceptique?
En fait, il y a une enquête d'OpinionWay qui est sortie qui montre qu'en France, il y a 34% des jeunes de 18-25 ans qui sont climato-sceptiques et près d'un Français sur cinq. Donc c'est énorme et c'est en train d'augmenter, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que les discours se musclent, parce qu'il y a le complotisme qui fait son chemin et qui, en effet, pullule aussi.
Qui fait un grand chemin.
Qui fait un grand chemin et qui pullule aussi sur les questions du climat. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un mathématicien qui a étudié il y a quelques mois à peine plus de 200 000 tweets et il s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation du nombre de climato-sceptiques à travers les gens qui parlaient du climat sur ce réseau social-là. Donc je pense que l'algorithme et les réseaux sociaux font beaucoup de mal aussi à l'information, ce qui nous enferme parfois dans des bulles de pensée. Et après, pourquoi est-ce que c'est lié plus à la droite? Je pense parce que ça bouscule tellement un modèle préétabli qui est de dire notre modèle économique aujourd'hui met en péril la vie sur Terre. Et donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une dame qui travaillait sur la fin de vie, qui était psychologue et qui a théorisé les phases du deuil. Et en fait, ça peut s'appliquer à toutes les catastrophes, notamment le deuil qu'on doit faire d'un vieux monde. Et elle dit qu'au début, en fait, il y a le déni. C'est-à-dire quand on fait le deuil, quand
c'est
on va divorcer.
Phases.
Voilà, exactement.
Il y en a cinq,
vous connaissez très bien.
Ouais,
c'est
ouais.
Ça. D'abord, bah, c'est pas possible. Ils doivent se tromper quelque part.
Ouais.
Et donc, quand on a été baigné, imprégné d'idées économiques, de pensées qui nous ont dit mais c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est muable et
donc,
on doit avoir une croissance infinie et c'est tout.
On croit pas au reste, c'est comme ça.
Et après, la deuxième phase, ça va être la colère.
Ouais.
Là, on va être en colère et c'est le « how dare you » de Greta, c'est le « comment osez-vous », c'est tous ces jeunes aussi qu'on voit avec une colère qui est légitime, que je peux totalement comprendre et que je ressens parfois aussi. Il faut essayer de ne pas rester trop longtemps dedans parce qu'elle peut être moteur, mais elle n'est pas
suffisante. Voilà, mais c'est bien que ce soit un déclencheur.
Ouais, c'est un déclencheur, absolument, l'indignation est nécessaire, puis elle est légitime, cette colère.
Mm-hmm.
Quand on est jeune et grandit dans ce monde,
bien
c'est
sûr.
Légitime.
Bien sûr, même quand on n'est pas jeune.
Et hein. Même quand on n'est pas, absolument. Il y a la colère et après, il y a le marchandage, donc on se dit « oh, peut-être qu'on peut, les solutions technologiques
vont nous
sauver, voilà, ah. Peut-être que... » En fait, la croissance verte, on va y arriver. Il y a des gens qui très intelligents qui vont trouver des solutions
à
pour
ma
nous.
Place.
Ça va aller. Donc, c'est bon. Ils vont gérer le dossier. Ça, c'est le marchandage. Et après, il y a la quatrième phase qui est celle de la tristesse. Et ça, c'est tout ce qu'on entend dans les discours d'éco-anxiété de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants, qui se sont terrorisés de grandir dans ce monde-là. Et ça, c'est une phase qui est, à mon sens, la peur est importante parce que c'est pas l'inverse du courage, c'est l'inverse de l'insouciance. Et ça peut être très puissant. Simplement, il faut que cette peur-là, on arrive à la transformer dans l'action. Et ça, c'est la dernière phase, c'est la phase d'acceptation, la cinquième phase. Donc, il faut accepter ce qui se passe, être lucide, avoir le courage et la lucidité sur la situation. Et en même temps, se dire qu'on peut encore faire quelque chose, que tout n'est pas... On n'a pas déjà jeté les dés. On peut vraiment avoir un impact sur la direction que va prendre le monde.
Vous avez donc 25 ans. C'est la première prise de conscience, c'était quand ?
Moi, j'ai eu cette chance d'être née dans les montagnes. Donc, en fait, je suis née avec des glaciers autour de moi.
Enfin, quand il y en avait encore, alors.
Quand il y en a, ben, en fait, je voyais. C'est justement le fait de voir. Mes parents faisaient alpinistes, mon frère aussi. Et le fait de voir que de plus en plus, il devenait de plus en plus dangereux. La montagne devenait dangereuse.
C'était au-dessus d'Albertville, c'était où?
Absolument, exactement. C'est drôle. Personne connaît d'habitude. Ça s'appelle Pézé-Valandry et un petit village sublime. Et juste à côté d'un parc national de la Vanoise. Et je voyais ces glaciers reculer d'année en année. Je voyais ces neiges éternelles qu'on appelle, qui sont des faces qui sont normalement tout le temps couvertes de blanc.
Les névées.
Voilà, exactement. Et ben en fait, elles, de plus en plus, elles se ternissaient. Et puis on voyait que la neige venait plus tard. J'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre dans ma chair viscéralement les conséquences du dérèglement climatique.
Ouais, je suis passé par le col du Petit Saint-Bernard l'année dernière.
Ah, bien sûr, c'est pas loin.
Il n'y avait pas une pointe qui était blanche. Et alors, ce qui est incroyable, moi, j'ai mis sur Twitter une photo particulière d'un endroit au pôle Nord avec un mont, un petit bateau tout pourri des années 50, etc. Puis une photo d'aujourd'hui, où évidemment, c'était réduit par deux. Enfin, c'est une cata. Mmh. Et les gens disent non, c'est un photomontage.
Mais c'est vraiment notre cerveau. A envie de se protéger de cette violence-là et donc décide
c'est
de dire que c'est pas possible.
C'est le refus de l'obstacle.
Exactement. C'est pas possible. On se dit ça ne peut pas arriver aussi vite. Parce qu'aussi, on a eu cet imaginaire de bon, le climat, c'est pour plus tard, on se bat pour les générations futures, vous voyez, c'est pour demain. Et donc, du coup, on imagine que ça peut pas être aussi rapide. Mais moi, je suis partie en Islande en voilier l'été dernier, passer un mois avec des glaciologues, étudier le plus vaste glacier d'Europe. Et vraiment, on était face à ce glacier-là. Je sais que les glaces fondent, je le sais depuis. Mais le fait de voir, on s'est arrêté avec le glaciologue, il m'a dit tu vois là, Camille, t'es dans 98, regarde, la glace, elle était là. On a marché plus d'une demi-heure pour arriver à la glace. Ça avait perdu rien que cette année-là, 300 mètres de fonte. Et à ce moment-là...
En une année.
En une année, 300 mètres de fonte. Imaginez courir 300 mètres en une année. Et tu as cette espèce d'énorme rivière de fonte de glace et tu te dis, mais en fait, c'est une urgence mais imminente. Et tu vois comme ça de tes propres yeux, tu te dis, mais ce qui se passe, ça va très très
on
vite.
On est même à se dire que c'est injouable, en fait, de s'en sortir comme ça maintenant.
Non.
En vrai, non, mais pardon, je suis obligé d'être... Non, mais je suis, oui, je suis aussi malheureux que toi. Hein. Enfin, je suis terrorisé. Quand j'avais ton âge, on me disait, ah, faut faire attention. Hein. La pollution, c'est mal. Faut faire gaffe et tout ça. Puis, en fait, voilà, c'était la pollution, c'est mal. Et aujourd'hui, c'est un drame complet. Et quand on voit ces fameux 300 mètres dont tu parles, ou les fameux bouts de banquise qui se détachent par département entier, la taille d'un département, enfin, avec des pauvres ours dessus, on va mettre des centaines d'années, en fait, à revenir à la normale.
On a pété des barrières qui sont des cycles de rétroaction, ça s'appelle, qui fait qu'on ne retrouvera jamais la température qu'on a connue là, en tout cas, pas à court terme. En revanche,
pas de notre vivant, en tout cas.
Pas de notre vivant, mais ce qui est important de se dire, si, c'est que, pour moi, c'est que derrière chaque demi-dixième de degré, il y a des vies qui se cachent. Même aujourd'hui, il y a des vies humaines et non humaines, mais aussi des vies humaines. Il y a déjà des gens qui meurent du dérèglement climatique en France, et puis notamment dans les plus précaires d'ailleurs, et puis notamment dans les pays les plus pauvres aujourd'hui. Alors que ce sont ceux qui sont le moins responsables historiquement, et même encore aujourd'hui, des émissions de gaz à effet de serre.
Évidemment.
Donc il y a une immense injustice.
C'est
là.
Les plus pauvres, donc ce sont les moins industrialisés, et donc c'est eux qui polluent le moins, et c'est eux qui meurent le plus.
C'est eux qui... Exactement. Sauf qu'il faut se dire que, pour moi, c'est important de se rappeler que dans ce qui se passe là, on a une capacité d'action qui est immense. On a vraiment une capacité d'action qui est immense parce que, puisqu'on sait que derrière chaque demi-dixième de degré, il y a des vies qui se cachent, alors on ne peut pas ne pas se battre pour elles. Et il y a Sea Shepherd, qui est une association, un peu les pirates des mers, qui vont se battre pour
comment
les
il s'appelle
bateaux.
Le boss, déjà ?
Paul Watson.
Oui.
Et lui, il demande, avant de rentrer sur le bateau, est-ce que tu serais prêt à mourir pour une baleine ? Alors, ça peut paraître un petit peu
mais eux, ils
radical,
l'ont fait.
Mais eux,
ils
sont prêts
fait.
À faire ça. Et en fait, c'est comme ça que je le vois.
Il y a des images. Hein.
Voilà, il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire.
Mais
vraiment se
comment t'expliques alors que même l'État prend des décisions, notamment chez nous, pour des pêches qui ne sont plus tolérables, notamment les pêches au chalut, etc. Donc, j'ai un grand respect pour les pêcheurs, mais il y a des pêches ravageuses.
Les pêches industrielles qui, ouais, clairement.
Voilà, les pêches industrielles ou les pêches qui font pas de différence entre un dauphin et un maquereau ou que sais-je. Comment tu expliques que malgré les lois étatiques, il y a quand même encore. Alors on va te dire, oui, mais il faut bien qu'on bouffe. Bah, sauf que le jour où il n'y aura plus de poissons, de toute façon, il n'y aura plus de pêcheurs. Comment on peut éduquer les gens ? Comment on peut être pédagogue pour aller voir ces gens qui ont besoin effectivement de travailler
bien
et
sûr.
Leur expliquer qu'il ne faut plus travailler comme avant ?
En fait, il faut se dire que ceux qui vraiment qui vident les océans, et c'est un peu, on pourrait l'appliquer un peu au reste. Hein. Par exemple, pour vous donner une idée plus concrète, Amazon, on peut se dire, bah super, ça crée des emplois, c'est important. En réalité, ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée. Parce que on va avoir un entrepôt Amazon qui est là, et donc du coup, on va avoir le petit libraire qui va fermer, on va avoir le petit magasin qui était là avant dans la rue qui va fermer. Donc en fait, on concentre et on remplace beaucoup d'hommes par des machines, et donc on perd aussi des emplois.
Donc en fait, on est en train de vivre aujourd'hui ce qu'on a vécu il y a 40 ans ou 50 ans avec les supermarchés. C'est-à-dire la mort du petit commerçant pour les supermarchés,
exactement.
Puis les hypermarchés, puis Amazon.
Exactement. Et donc, en fait, c'est la même chose avec la pêche. C'est-à-dire, ou comme on parle des agriculteurs aussi, en fait, ces fermes-usines ou précisément ces énormes pêcheries industrielles, il faut se dire que d'ailleurs, ce n'est pas des petits pêcheurs qui viennent sur leur bateau. Au contraire, ces énormes pêcheries-là, elles détruisent complètement ces personnes qui vivent de la pêche, ces pêcheurs locaux, qui ont une pêche plutôt respectueuse de l'environnement et des écosystèmes qui gèrent bien les stocks. En fait, ces énormes pêcheries-là, elles vont détruire aussi des emplois. Donc, ce sera forcément contre les gens. Et pourquoi est-ce que l'État laisse faire ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des multinationales qui deviennent plus fortes que des États.
À cause de l'argent.
À cause de l'argent, Total Energy a un chiffre d'affaires plus grand que le PIB de plein de pays. Ça, c'est extrêmement problématique pour moi.
Ouais, c'est incroyable d'ailleurs même. C'est une puissance, c'est un État dans l'État.
C'est-à-dire c'est un État dans l'État, clairement. Et puis, quand j'ai travaillé beaucoup sur Total Energy, le géant pétrolier français.
Bah, donc, tu travailles, j'imagine, sur la nouvelle plateforme qui est en cours au large de l'Afrique du Sud.
Bien sûr, au large de l'Afrique du Sud. Ils sont en train de chercher pour des hydrocarbures.
Ouais.
Et puis, ils en montent une aussi, la plus grande pipeline chauffée au monde entre l'Ouganda et la Tanzanie. Enfin bref, il y a plein de...
Qui est horrible, qui traverse combien de...
Qui traverse le lac Victoria, et traverse Marshall Falls, qui est le plus grand parc national.
Fait 4000 km, je crois, elle fait un truc comme ça. 1400
km. Ouais,
c'est 1500.
Énorme.
C'est et donc, ça veut dire qu'on dégage des villages.
100 000 personnes qui sont poussées hors de leur...
Et qui n'ont jamais été payées.
Qui n'ont jamais reçu
des
compensations.
Toujours...
À qui on a toujours promis les compensations qui n'existent pas.
Voilà.
Nos amis activistes qui viennent, qui sur place se battent de la même manière que nous, avec qui on est en contact fréquent, se sont fait enfermer. La répression est très forte là-bas.
Parce qu'il y a la corruption.
À cause de la corruption. Mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que... peut-être la bonne nouvelle là-dedans, c'est que... l'activisme marche parce que ce projet-là, il a déjà 4 ans de retard grâce aux activistes. On a réussi à faire en sorte qu'il y ait plus de 20 banques qui décident de ne pas financer cette pipeline. Pratiquement une dizaine d'assurances qui décident de ne pas l'assurer. Et s'ils n'ont pas l'argent pour le faire, s'ils n'ont pas les assureurs qui disent « bah on assure ou pas ce projet », on a une chance, alors qu'il y a un film, hein, on est vraiment David contre Goliath, mais on a peut-être une chance d'arrêter, si ce n'est pas celle-ci, d'arrêter les prochaines.
Oui, parce que ce pipeline, il est fait.
Il est en train d'être construit, mais ils sont tout début et on a déjà.
Ah, je pensais qu'il était plus que ça.
Non, on se lance dans des combats qu'on a très peu de chances de gagner. On le fait pas parce qu'on sait qu'on peut les gagner, on le sait parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du nécessaire et du viscéral. Et parfois, ça marche. On a réussi on était quelques-uns, on a réussi à obtenir le fait que Emmanuel Macron interdise l'exploitation minière des fonds marins. C'était terrible. Et l'idée, c'était très rapidement, c'était d'aller prendre des énormes machines qui allaient aspirer tous les fonds marins parce qu'ils avaient trouvé des minerais qui permettaient d'être utiles dans les batteries de nos téléphones et de nos ordis et de faire des plusieurs milliards d'euros, évidemment, de chiffre d'affaires. Et ça pourrait relâcher tout le carbone qui est séquestré dans nos océans, qui est le principal puits de carbone de la planète, en fait. Donc c'était terrible l'impact que ça pouvait avoir. Et il y a 6 mois, il n'y avait aucun pays qui s'était prononcé tout le monde était parti pour, à partir de ce juillet, le juillet-là, lancer les bateaux et y aller et
puis commencer
à aller, ouais, c'est ça, commencer à les creuser. Et on a réussi à obtenir que 12 pays se prononcent. On a eu la France il y a quelques mois, on a eu Emmanuel Macron qui a annoncé à la COP interdire l'exploitation minière des fonds marins sous la pression des activistes. Donc en fait, il faut aussi dire que ce qu'on fait parfois marche. Alors ça demande du temps, beaucoup d'abnégation, il faut être très stratégique, mais quand vous rejoignez une action dans la rue, quand vous signez une pétition, vous avez l'impression que c'est rien, que ça ne change rien, que vous dites bah, pourquoi. Et en fait, vraiment, sincèrement,
je ne signe jamais de pétition,
choses.
Je vais signer celle-là. Celle de l'Afrique du Sud, notamment.
Merveilleux, merveilleux.
Ouais.
Mais vraiment, c'est important.
Toi, t'es encore prête à faire des enfants?
Ouais, bah si je rencontre une personne avec qui j'ai envie de le faire.
Mais, ah, je parlais pas de ça.
Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas ce... Mais non, c'est une vraie question intéressante parce que...
Parce qu'il y a beaucoup de gens de ton âge, ou de 30 ans, ou 35
ans,
qui disent « no way ».
Ouais, c'est les « green generation no kids » aux États-Unis, ils appellent ça, pour dire... Nous, en fait, puisque...
Et donc, tu appelles ça
Jean... Jean, c'est Green Generation,
oui,
Génération Verte.
L'acronyme, c'est
JNCO.
JNCO, okay.
J'ai vu ça l'autre jour dans un article. Et en fait, c'est des gens... Et je comprends totalement, c'est de se dire, mais oh là là, le monde est tellement incertain, comment est-ce que vous voulez qu'on décide de faire des enfants dans cette incertitude-là? Et moi, je trouve que c'est un peu triste, si tant est que laissons le cœur des femmes tranquilles, mais si tant est qu'on est dans une posture où quelqu'un a envie potentiellement d'avoir des enfants, ne pas le faire pour raison climatique, je trouve ça triste parce que non seulement
c'est
ça veut dire qu'on laisse que les plus terribles et les plus inconscients faire des enfants, ce qui n'est pas forcément bon signe après pour comment ils les éduquent pour le monde, mais aussi on devrait se poser la question de quel enfant on va laisser à notre planète et pas seulement quelle planète on laisse à nos enfants. Si on arrive à éduquer complètement une nouvelle génération qui est capable de rompre avec
l'idée
d'autodétruire la vie sur Terre, ça peut être merveilleux.
Tu m'as dit il y a quelques instants qu'il y avait X% des 18-35 qui étaient climato-sceptiques.
Bah, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail. Et en même temps...
Alors qu'on se dit, qu'on a plutôt tendance à se dire à mon âge, ok, nous on est cons, on déconne, même si on fait des efforts, mais au moins les jeunes, on sait que... non, pas encore.
En fait, vraiment, c'est parce qu'on est dans nos cercles et qu'on imagine que c'est les gens sont... L'algorithme des réseaux sociaux et de la surinformation partout nous enferme aussi dans nos bulles de pensée où on imagine que, moi, constamment, tous les articles qu'on me propose, c'est des articles hyper engagés sur le climat, j'ai l'impression que ça y est, que tout le monde sait. Alors, moi, je fais toujours cet effort, je pense que c'est vraiment avoir l'humilité de se dire, on va réexpliquer inlassablement, recommencer, prendre les gens par la main, parce que moi, j'ai eu la chance et le privilège immense aussi d'avoir accès à une éducation, où je peux lire des rapports scientifiques, de grandir dans un endroit qui s'effritait. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut qu'on fasse cet effort de toujours donner accès à l'information et puis d'embarquer dans l'action aussi.
Un peu partout quand même, si on ouvre les yeux. Il n'y a pas besoin d'être à Albertville ou au-dessus d'Albertville dans un petit village. Enfin, je veux dire, les gens qui ont des maisons de campagne ou qui vivent à la campagne, voyez bien que leurs petits étangs ne gèlent plus depuis 15 ans. On voit bien qu'on ne peut plus monter sur la glace à Paris, au Bois de Boulogne, comme quand j'étais petit. On voit bien qu'on ne peut plus faire du... Ben, bien sûr, on faisait du patin à glace sur le lac du Bois de Boulogne. C'était il y a 40 piges, quoi. Tu te rends compte la vitesse à laquelle ça va? Il n'y a plus de piaf non plus.
Ça, c'est
70% des piafs de Montmartre et de Paris ont disparu, tu te rends compte?
La biodiversité, on le voit partout autour de nous. On a perdu 68... Vous prenez une classe de 100 personnes ou une rame de métro, deux rames de métro, allez, et on en enlève 68. Et ça, c'est ce qu'on a fait aux populations animales depuis les années 70.
Tu te rends compte?
68.
Ouais, quand je dis 70, tu vois, je suis pas loin.
C'est énorme. C'est absolument fou.
C'est tellement exponentiel, tellement rapide. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit qui allait arriver en plusieurs décennies arrive en fait en quelques années, voire quelques mois. Les scientifiques disent que l'été dernier était le plus frais de ce qu'on va vivre. Heureusement que vous êtes là, mais
Comment veux-tu, sans être totalement pessimiste, avec le pognon, parce qu'il n'y a que ça en fait qui est en jeu, avec la croissance que veulent les pays, avec avoir la plus grosse quéquette, avoir la plus grosse croissance.
L'argent et le pouvoir.
Ouais, ils savent pourtant ces gens.
Bien sûr, et c'est pour ça que...
Mais c'est après moi le déluge dans leur tête alors.
Eh bien alors, parce que déjà aussi ils sont dans une tour dorée qui sera la dernière peut-être à sombrer sous les eaux qui vont monter, et que donc ils sont les moins atteints, bien que les plus responsables du dérèglement climatique. C'est là où elle est la grande injustice, c'est là où le bât blesse. Et c'est aussi pour ça qu'on ne doit pas que les attendre, qu'on ne peut pas se permettre de seulement dire on va voter pour vous, puis on va attendre gentiment que vous mettiez des lois en place, s'il vous plaît, peut-être. C'est pour ça qu'il y a plein de mouvements de désobéissance civile non violente, de gens qui décident de vivre autrement, d'expérimenter sur les territoires, partout en dehors des villes ou même dans les villes, d'autres manières de vivre. En fait, ce fameux monde de demain dont on parlait, il existe déjà, mais dans plein d'endroits.
Alors par exemple, parlons du dernier truc où tu étais. Qui était une réunion de 35 000 personnes en Allemagne.
Ça, c'était la plus grande mine de charbon à ciel ouvert, qui était en train d'être construite, enfin, en tout cas, qui existait depuis un moment déjà, mais qui était en Allemagne. Et ils avaient envie de raser le dernier village, qui était le village de Lutzerath, pour trouver le lignite qui était sous ce village-là. Et ce qui était bouleversant, c'était de voir qu'il y a eu des gens qui sont venus de partout de l'Europe, notamment beaucoup d'Allemands, mais de partout de l'Europe, pour se dire, on va mettre nos corps en travers des machines. Et on ne vous laissera pas faire. Donc on a passé, moi, une journée, mais il y en a qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour dire, on va se mettre, nos corps seront en travers de vos machines. Et notre force, ce sera peut-être seulement le nombre, mais ce sera le nombre. Et on sera là. Et on sera, je trouve cette phrase qui est très belle, qu'on entend souvent sur les aides, les zones à défendre, c'est de dire, on ne défend pas la nature, mais on a la nature qui se défend. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je comprends totalement qu'on puisse avoir envie de perdre espoir, mais dans ces moments-là où, ce combat-là, on l'a perdu, le village va être rasé.
Ah, putain,
mais en même temps, il y avait cette chose où je me suis sentie parfaitement en paix à ce moment-là, alors que tout était d'une grande violence, mais parfaitement en paix parce qu'on a l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, et de se dire qu'il y a quelque part, on fait aussi pour le beau et une forme de beauté du geste, de se battre pour ce qui est juste.
Mais ça ira jusqu'au bout quand même, ils iront jusqu'au bout.
Ils iront jusqu'au bout, mais on ira aussi jusqu'au bout. Et si on perd celle-là, alors on montre, en ayant été aussi nombreux à ce combat-là, on montre que pour les prochaines, on ne les laissera plus faire. Et peut-être qu'on a perdu celle-ci, mais que dès la prochaine idée qu'ils auront d'en refaire une autre, on sera là aussi et on reviendra à l'assemblement dans chacune jusqu'à ce qu'on soit plus de quelques milliers, mais qu'on soit des millions et qu'ils ne puissent simplement plus avancer.
Et tu vois, c'est bien que tu dises ZAD, parce que les zadistes dans la tête des gens, ça va pas. C'est des gens qui sont contraires à ce qu'il faudrait, qui sont des mauvais rebelles, qui sont pas des bonnes personnes, etc. Or, ZAD, c'est zone à défendre.
C'est une zone à défendre et c'est très puissant. En fait, on leur doit beaucoup. Hein. Aux zadistes, on doit beaucoup, beaucoup de combats d'endroits, qui est Notre-Dame-des-Landes, qui est la plus connue, mais d'endroits où, en fait, ce qui se passe, c'est une zone où il y a un projet inutile, ce qu'on appelle, donc ça va être un entrepôt Amazon, un aéroport, quelque chose qui détruit le climat et la biodiversité, et puis souvent la vie des gens aussi, qui habitent en l'endroit. Et on se dit, non, en fait, on a utilisé tous les recours juridiques, on a tout essayé pour arrêter, le projet va quand même avoir lieu. Alors on va s'asseoir, on va rester ici, on va camper ici, on va prendre cette terre, on va reprendre cette terre et on mettra notre corps en travers de cette entreprise de destruction. Et à la fois, il y a ça qui est très très beau, qui empêche les travaux d'avancer et qui ont déjà eu plein de victoires, mais aussi...
Ben, Notre-Dame-des-Landes, ça a marché.
Notre-Dame-des-Landes, c'est une victoire immense.
Mais un mort.
Larzac,
mais un mort.
Et bien évidemment, et parce que la violence et la répression qui sont utilisées pour déloger les gens est très puissante.
Et d'ailleurs, on pourrait quand même expliquer qu'en Allemagne, des images que j'ai vues et qu'on peut voir sur YouTube, qui sont très drôles, où les flics ont les pieds embourbés très profondément dans la boue, et t'as une espèce de moine... Un écologiste déguisé en moine qui vient, qui jette des boulettes de boue. C'est hyper drôle, mais on peut se rendre compte aussi que la police, là, en Allemagne, n'a pas été une police violente ni répressive comme on aurait peut-être pu le voir chez nous.
Beaucoup moins qu'en France, en tout cas. Beaucoup moins qu'en France, et ça c'est très certain, mais la montée de la répression et la criminalisation des activistes climat a été très, très fort par ce gouvernement. On l'a vu quand on a un Premier ministre qui parle d'éco-terrorisme, mettre sur le même plan des activistes climat et le terrorisme, enfin, c'est une culture intensive.
Et où est-ce qu'on en est de ça, les méga-bassines?
Il y a une prochaine mobilisation le 25 mars, si d'aventure vous voulez rejoindre, à Sainte-Soline, qui est l'endroit où sont les méga-bassines, notamment avec des agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut penser, avec plein d'agriculteurs qui font de l'agriculture autrement.
On va expliquer juste en deux mots à ceux qui nous écoutent, quel est le problème de la méga-bassine?
En fait, c'est que on manque d'eau terriblement. Et là, cet été, ça va être très, très dur parce que...
On est déjà en sécheresse maintenant.
On est déjà en sécheresse en plein mois de février.
Ouais.
Vu qu'il a fait très chaud, les glaciers n'ont pas pu retrouver leur forme de l'hiver et donc jouer ce rôle de château d'eau un peu naturel. Les nappes phréatiques sont asséchées depuis cet été qui était déjà en sécheresse. Donc en fait, on manque de plus en plus d'eau. On est en stress hydrique en France aujourd'hui en 2023. C'est très grave. Une partie de ma famille vient des Vosges et à Gérardmer. Pour que les populations puissent avoir accès à de l'eau potable, on a fait bouillir de l'eau des lacs en France en 2023. C'est complètement hallucinant quand on réalise. Et en fait, il faut se dire que ça, c'était déjà l'été dernier. Cet été, ça risque d'être encore plus difficile. On ne peut pas prévoir, mais c'est probable que ce soit encore plus intense. Et donc, face à ça, l'agriculture intensive qui font des monocultures, qui fait des hectares et des hectares avec des plantes qui utilisent beaucoup de pesticides, d'intrants, en fait, ça demande beaucoup d'eau aussi, ces plantes-là, notamment le maïs. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour répondre à ces besoins d'eau, il y a une idée de faire des méga-bassines, c'est-à-dire de stocker plein d'eau qui sera utile juste pour cette agriculture intensive.
De stocker l'eau, mais qui vient d'où ?
De stocker l'eau qui vient justement des nappes phréatiques, okay. Et en fait d'accaparer une partie de l'eau qui serait utile uniquement pour cette agriculture-là. Alors qu'il y a plein d'autres petits agriculteurs qui dépendent aussi de cette eau-là, mais qui n'ont pas les moyens de construire ces méga-bassines et de profiter de ça. Donc, c'est vraiment une question de gestion de ressources. Et ça, c'est un exemple, mais qui dit beaucoup de quel choix on va avoir. C'est tout, mais c'est... Malheureusement, malheureusement ou pas, mais en tout cas, pour moi, on est obligé de voir à travers le prisme des injustices sociales ce combat écologique. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a une grande injustice aussi. Et on ne va pas pouvoir répondre à l'urgence climatique si on n'essaie pas de réparer ces inégalités qui existent.
Les pays étant en plus de plus en plus les uns en compétition avec les autres, il faudrait qu'on ait tout d'un coup la totalité des chefs d'État qui se prennent la main, qui se disent « Ok les gars, il faut qu'on se mette tous d'accord, parce que sinon on est direct dans la merde ». Mais là, c'est totalement utopique, on le sait.
Et en même temps, c'est ce qu'on essaie de faire avec des COP depuis des années et des années.
Quand tu imagines que les accords de Paris ont été déchirés
le jour où Trump a été élu,
il a déchiré, enfin tu vois.
Et puis même la France ne respecte pas ces engagements qu'elle s'est elle-même donnés. Plus on arrive à anticiper ce qui va se passer, plus on va pouvoir avoir le temps de faire des choix démocratiques et de se dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Comment est-ce que vous voulez qu'on répartisse l'eau sur les territoires ? Est-ce qu'on interdit d'arroser les golfs quand on est en sécheresse pour donner de l'eau aux agriculteurs ou pas ? La responsabilité des médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il fait un peu plus chaud, on va avoir les JT qui vont montrer en disant, les températures de saison sont géniales, on montre les gens qui se baignent en plein hiver et on trouve ça... Et en fait, dans le traitement médiatique qui est fait, il y en a qui font le travail.
Oui, je ne sais pas s'ils disent que c'est génial, ils disent quand même que c'est au-dessus des saisons.
Oui, mais
au-dessus des normales.
Il y a une association qui est géniale qui s'appelle Quota Climat qui regarde, par exemple, quand le rapport du GIEC sort, qui regarde combien de minutes on a. Voilà, une association qui regarde combien de minutes sont accordées à ce sujet de l'urgence climatique. Et à chaque fois, mais c'est déroutant de se rendre compte que nous, on a l'impression, parce qu'encore une fois, on va avoir, vu qu'on est tous les deux intéressés par le sujet, on va lire beaucoup dessus et il y a de l'information qui est disponible. Mais. Proportionnellement, en fait, elle reste tout à fait insignifiante, contrairement à ce qu'on pense.
Ça qu'elle existe pour ceux qui vont la chercher.
Voilà, exactement.
Mais on
ne
la donne pas
non.
À ceux qui sont passifs.
Bien sûr.
Et ça, on devrait le faire.
Ouais.
Sans
avoir peur d'angoisser les gens, parce qu'on a le droit de savoir, mais je trouve toujours ça très bizarre quand on dit « Oui, mais attention, il ne faut pas faire peur. » Souvent, je rentre sur un plateau et on me dit « Bon, Camille, on est content de parler, mais s'il vous plaît, faites pas trop peur. »
Pas de stress.
Mais moi, je trouve ça terrifiant parce que je m'imagine juste que si j'allais chez le médecin et qu'il se trouve que j'avais une maladie grave,
veux qu'on te le dise.
Je veux qu'il me le dise.
Bien sûr.
Je ne veux pas qu'il mente pour pas me faire peur. Je veux dire, dites-le-moi, vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses, mais dites-moi ce qui se passe, dites-moi concrètement quel est le plan d'action, je peux prendre quoi contre traitement, c'est quoi les effets secondaires, et puis je décide.
Et puis la peur n'évite pas le danger.
La peur n'évite pas le danger, et au contraire, elle est même, je crois que la peur est nécessaire pour moi. Il y a une peur qui est saine, et en plus, on est déjà gouverné par plein de peurs. On nous crée tout le temps des petites peurs un peu insignifiantes, la peur de l'autre. On nous crée tout le temps des peurs qui sont pas vraies, alors qu'il y a une vraie grande peur que celle que l'on
majeure
et qu'on devrait adresser beaucoup plus, à mon sens.
Non, mais c'est la plus grave.
Absolument.
C'est la plus grave parce qu'elle touche l'humanité. Elle touche tout le monde.
Elle touche nos corps, tout ce qu'on aime et tous ceux qu'on aime.
Qui, par exemple, demain, un mec comme moi ou des jeunes veulent te rejoindre, veulent rejoindre tes actions ?
C'est une très bonne question, je l'adore. Souvent, je disais, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez rejoindre telle action, signer telle pétition, venir à telle manifestation. Ça, c'est génial. Et puis pour nous, ça fait toujours des plus 1 et ça nous fait grossir en capacité.
C'est quand les super bassines, là ?
Le 25 mars. Nous, on fait une action Parlement européen le 6 mars aussi pour les fonds marins. On fait, voilà, pouvez-nous, je dis beaucoup sur Instagram, surtout ce qui se passe, c'est pas le Graine de Possible.
Comment on peut te suivre sur Instagram?
C'est pas le Graine de Possible, vous pouvez voir.
Et, Graine de Possible.
Ouais. Et là-dessus, j'en parle beaucoup. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que pour moi, peut-être le premier geste et le plus important, c'est de se poser la question. Et c'est de se dire, qu'est-ce qui m'indigne? Comment est-ce que moi, dans mon quotidien, je peux non pas faire des petits gestes comme ça, à droite, à gauche, quand je rentre le soir ou le dimanche, mais comment est-ce que je peux décider d'adopter le prisme de l'urgence climatique à travers toutes les décisions que je vais prendre? C'est-à-dire, comment est-ce que dans mon métier, je suis boulanger, comment est-ce que dans mon métier, eh ben, je décide de m'approvisionner avec des farines locales d'un agriculteur qui respecte ses terres, etc. Voilà. C'est un exemple. Comment, si je suis professeur, je fais en sorte d'avoir des intervenants qui vont parler du climat? Comment est-ce que, si je fais des films, je fais en sorte que l'impact de mes films soit le plus réduit possible? Tout ça, en fait, c'est de se dire
les mails. Tu me dis quoi sur les mails?
Sur les mails.
Alors, parce que moi, j'ai dit à ce garçon que les mails avaient un impact carbone terrible. Il me dit non, c'est pas vrai.
Bah ça, si enfin, en tout cas, l'impact carbone. Si Internet était un pays, ce serait le quatrième pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Oh, putain.
Donc c'est, en fait, on se rend pas compte parce qu'on imagine que c'est invisible. On ne voit pas Internet. C'est comme des données qui. Et en fait, il y a plein des énormes centres de refroidissement. Il y a des énormes tuyaux pour qu'on puisse avoir accès à la mer, pour qu'on puisse avoir accès. Enfin, on rend invisible ce qui nous encombre dans cette société moderne. Et on met tout.
Alors, on s'en fout pas. Quand on reçoit un mail, OK, bien reçu. Non, on s'en fout pas.
Hein. Non, mais c'est important. C'est clair qu'il faut essayer de réduire ça au maximum. Après, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a une ministre de l'énergie qui avait dit pensez bien à ne pas envoyer des mails avec des pièces jointes rigolotes. Et ça avait beaucoup. Était assez offensant parce qu'en fait, de sa position de ministre de l'énergie qui pourrait arrêter des bombes climatiques, empêcher Total Energy de construire des palmes, elle avait dit faites attention quand même à pas trop regarder de vidéos de chats et pas envoyer des pièces jointes en mail. Donc là, c'était de l'ordre de l'indécence parce qu'il y a aussi des ordres de grandeur en effet qui fait que, bien sûr, qu'on doit avoir une action qui est d'abord collective plutôt que de passer toute notre énergie et tout notre temps sur des petits gestes individuels. En revanche, moi, je pense qu'il faut tout faire, qu'on n'a pas le luxe de choisir d'en mettre certains de côté.
On est bien d'accord que faire son tri, c'est bien.
Il faut le faire aussi. Juste, on ne va pas sauver le monde en faisant le tri. Donc, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin.
Non, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas encore.
Ouais. Oui, c'est sûr. Mais venez surtout dans la rue avec nous. Avec vos cartons, à la limite, vous pouvez faire le tri pour les recycler. Vous prenez vos cartons, au lieu de les jeter, vous en faites une pancarte et puis vous descendez.
Par exemple, les bouteilles en plastique, il ne faut jamais les écraser. Mm-hmm. Parce que les usines de recyclage, elles ne savent pas prendre la bouteille écrasée. Elles prennent la bouteille avec le volume qu'elle a normal, qu'elle connaît, pour lequel elle est calibrée. Donc, il ne faut jamais écraser ces bouteilles, comme beaucoup de gens font, pour mettre dans la poubelle. Tu savais?
Eh ben, je crois que je ne savais pas, tu vois. Ah, voilà. Tu m'apprends des choses comme ça, c'est bien. J'ai bien fait de venir.
T'as bien fait de venir, hein. Comment faire pour que ces agriculteurs qui font des super bassines et qui pompent la flotte pour les autres, comment faire pour leur dire, OK, tu ne vas pas faire de super bassines, mais tu vas continuer à exister?
En fait, pour moi, il y a aussi c'est pour ça que l'action individuelle, elle doit toujours être associée à une action collective, c'est que c'est à l'État. J'ai du mal à en vouloir aux agriculteurs qui sont dépendants d'un système où un agriculteur en France sur 3 gagne moins de 350 euros par mois. Il déserte, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre à petit feu tous les gens qui produisent notre nourriture, vraiment. Il y a la paysannerie, c'est de se déserte complètement parce que c'est un des métiers les plus difficiles.
J'avais rencontré un agriculteur qui avait hérité de son père quelques vaches. Et son père, c'était 1 franc le litre. Mmh. 35 ans après, là, c'était 30 centimes, ou 17... Enfin, c'était toujours 1 franc, quoi. Mmh. C'est-à-dire, avec les charges supplémentaires que sont l'électricité, Internet, le machin, le truc, blablabla, c'était le même prix du litre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas jouable du tout. Donc, ces gens sont en train de mourir aussi à petit feu. Et on va chercher du lait ailleurs, qui voyage. Donc, il y a une empreinte carbone dégueulasse. Enfin... Comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui est un pays de paysannerie extraordinaire, peut être en train d'être un pays...
Parce qu'on a financé massivement l'industrie. C'est-à-dire qu'aux paysans, on a choisi l'industrie. On a choisi les gestionnaires dans leur bureau. Et c'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est qu'en France, on est le premier pays bénéficiaire de la PAC, donc la politique agricole commune. Ouais. Qu'est, en gros, il n'y a pas un agriculteur aujourd'hui ou très peu qui peuvent vivre sans cette aide européenne. Et en fait, aujourd'hui, elle subventionne quoi? Massivement les fermes-usines. Massivement.
Incroyable.
Une agriculture intensive qui détruit les sols, qui détruit les rivières, qui détruit les corps, qui détruit les corps des agriculteurs eux-mêmes, qui se rendent malades des pesticides qu'ils mettent dans leurs champs. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est vraiment important de se dire qu'il y a aussi un rôle toujours politique à faire.
Comment tu expliques que les politiques, avec tout le danger qui a été mis en lumière sur les pesticides, soient allés, revenus, c'est juste encore le pognon? la puissance, le lobby de l'argent.
Malheureusement, oui, parce qu'il y a des lobbies de partout qui sont très, très puissants. Monsanto, Bayer, je connais mieux le sujet de Total Energy, mais on voit comment ils vont... Il y a plein de ce qu'on appelle de pantouflage, c'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent, qui étaient responsables chez Total Energy, qui d'un coup devient, en fait, conseiller du président sur tel pays, qui
ou est bizarrement
le pays, voilà, ou l'inverse. Et donc, en fait, c'est un milieu qui est très poreux. On imagine qu'il y a l'État, puis les entreprises. C'est en réalité un milieu qui est très poreux. C'est la même chose pour Monsanto Bayer. Il y a un film qui est génial qui s'appelle Goliath, d'ailleurs, sur le sujet, et qui montre très bien, il y a Pierre Ninet qui joue un lobbyiste, et qui montre en fait toutes ces logiques, tout avec l'argent qu'ils ont, à quel point ils sont capables de... Moi, je vois, parce que je fais une forme de lobbyisme aussi, quand je vais au Parlement européen, quand je vais au Parlement français, quand je vais
embêter
des ministres...
Qu'est-ce que tu vas faire au Parlement le 6 mars
Au 6 mars, vous êtes vraiment tous invités. On se bat pour l'exploitation minière des fonds marins, pour essayer de l'arrêter, et on n'a que quelques mois avant de l'arrêter.
Donc c'est une manif, alors.
C'est une action.
Ouais,
c'est une action devant le Parlement européen. Et ce sera la surprise de ce qu'on va faire.
À Bruxelles.
On n'a pas le droit de dire, mais ouais, ce sera à Bruxelles devant le Parlement européen.
Mais tu préviens quand même tout le monde, là. Enfin, tu préviens toutes les autorités.
Ils sont au courant que... On a déposé, c'est légal, donc normalement, ça devrait bien se passer. À Lutzerath, le fameux village dont on parlait en Allemagne, il y a deux activistes, ils étaient d'un courage terrible. Ils ont creusé un tunnel sous le village.
Ah oui, je sais.
Et ils sont restés près de 2 semaines sous ce village, dans ce tunnel-là. Et les gens leur donnaient du lin, justement, leur donnaient de la nourriture par des sacs comme ça, pour empêcher les travaux de continuer. Donc il y a vraiment des activistes qui sont prêts à tout. Et je pense que même si on n'est pas tous obligés d'aller s'enchaîner à des banques ou d'aller dans des tunnels, je pense que c'est important.
Qu'est-ce que tu as fait comme coup d'éclat, toi? Le plus...
J'ai fait beaucoup de coups d'éclat.
T'en as fait ou pas, plus jeune?
Collectivement, toujours avec des gens. Mais moi, c'est une des actions qui m'avait beaucoup amusée l'année dernière, c'est qu'on a bloqué l'Assemblée Générale de Total Energy. On est arrivé, on est parti à 5h du matin à l'autre bout de Paris, puis on avait pris des bus, on avait fait croire aux chauffeurs de bus qu'on faisait un séminaire. Et on arrivait à 4 bus comme ça devant la Save Play Yale où il y avait Total qui recevait ses actionnaires. Et je me rappelle de Gabriel, qui était un activiste qui prenait le micro, qui a dit « Bon bah, merci, c'est parti pour le séminaire. » Et là, il m'a dit « Camille, tu descends, tu cours et tu filmes. » Je suis descendue du bus. Et là, d'un coup, on a fait tomber les barrières, on a zigzagué entre des policiers et j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fou. Et en fait, on s'est accrochés, donc il y a des activistes qui sont accrochés à toutes les entrées et on a empêché les actionnaires de rentrer. Donc l'assemblée de Total Energy, leur assemblée annuelle avec leur petit four et tout, n'a pas pu se tenir. Et on a eu beaucoup de presse, on a pu dénoncer aussi tous les crimes de guerre qu'ils faisaient, le soutien qu'ils faisaient aux énergies.
Et néanmoins, ça continue.
Et néanmoins, ça continue.
Et ils font 22 milliards de...
Et ils font inlassablement continuer. Et en fait, plus vous êtes nombreux à nous rejoindre, plus on a de chances que ça s'arrête à un moment donné, ou en tout cas qu'on gagne quelques victoires.
Et est-ce que tu penses que ça dépend pas aussi de l'homme? C'est-à-dire que, est-ce que Claire Jury, qui est accidentellement et violemment mort, bêtement, avec son avion privé, en faisant un contrat avec les Russes, un soir sur une piste de Moscou, est-ce qu'il n'était pas moins dur, par exemple, que Pouyanné, dont on sait que c'est un caillou, le mec?
C'est un... Il est... Je sais qu'en interne, on l'appelle... Eagle 4, comme Aigle 4 pour Eagle 4. Et en fait, ce qui me
terrifie... On m'a raconté qu'il y avait des gens au conseil d'administration, quelquefois, de 60 ans, qui sortent en larmes.
Ah oui, oui. Mmh. Non, mais c'est quelqu'un de cynique, en fait, mais plus que cynique, de terrible. Et je pense que ce qui est... Il faut quand même se rendre compte de ça aussi, c'est qu'on peut imaginer, et pendant longtemps, je comprends, moi je me suis dit, bah, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils sont dans leur tête, ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça, ok. Mais non, en fait, non seulement ils sont au courant depuis les années 70...
10.
Ils étaient au courant, ils avaient les meilleurs climatologues avec eux, et en même temps,
ce qui était ouf,
ils sont extrêmement cyniques, ils choisissent leur inaction, ils savent ce qui se passe.
Ce qui était ouf, c'est qu'en 70, le premier qui a jeté une alerte vraiment très très forte sur le drame sur l'environnement de la part d'un pétrolier, c'était un pétrolier. C'était, je crois, Exxon, il me semble, que c'était le premier gros rapport qui disait « Attention, on est super polluants ». Et puis finalement, ils sont tous réunis, ils ont dit « On ferme notre gueule ».
Ils ont dit « On va faire comme l'industrie du tabac », c'est-à-dire on va payer des climato-sceptiques, on va payer des scientifiques pour faire des fausses études, pour essayer de noyer un peu la vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte aussi...
Oui, mais ces gens, ils ont des enfants, bordel.
Bah, ils ont des enfants, mais des enfants qui, encore une fois, seront extrêmement privilégiés, donc qui risqueront de ne peut-être pas de leur vivant toucher dans leur chair les conséquences du dérèglement climatique. C'est des personnes qui imaginent aller vivre sur Mars, c'est des personnes qui imaginent se faire cryogéniser. On est sur ce type aussi de profil-là. C'est des amis d'Elon Musk. On est clairement chez les fous, on est chez les psychopathes. Les psychopathes, le symptôme, c'est de ne pas ressentir, de ne pas avoir d'empathie. Je pense que précisément, ces gens-là ne sont pas empathiques. Ils ne peuvent pas être empathiques en faisant ce qu'ils font.
Ils savent qu'ils
sont en train de condamner la vie sur Terre et ils continuent de le faire en y prenant plaisir. en trinquant au champagne à leurs résultats que fait Total Energy, tout en sachant comment ils ont fait leurs résultats. Ils ont fait ces résultats sur la guerre. C'était dans les avions qui ont bombardé Mariupol, c'était du fuel de Total Energy qui était dedans. Et ils ont trinqué ça au champagne. Donc en fait, je pense qu'on ne peut plus attendre d'eux qu'ils prennent des décisions seuls. Il faut les y contraindre. Et c'est pour ça que le rapport de force, que l'action.
Tu veux dire que ce qui nourrissait les moteurs des bombardiers russes, c'était de l'essence
en de. En partie, c'était l'essence de Total Energy.
C'était du kérosène de Total Energy.
C'est un des derniers à s'être retiré.
Auchan est encore, paraît-il, là, dans la tourmente en Russie, parce qu'ils sont en train, de ce que j'ai lu, de livrer par centaines de milliers de boîtes de conserve l'armée russe.
Ah ouais, bah j'ai pas vu cette information.
Auchan, qui est une famille française.
Mmh. Non, mais c'est clairement. En tout cas, peut-être pour finir, juste dire que l'industrie fossile est liée. Au conflit et à la guerre. Et donc, peut-être que quand on imagine que les activistes pour le climat sont violents, qu'on est du côté de la violence, peut-être se rappeler quand même que, pour moi, la voie écologique, c'est peut-être la seule chose qui permet la paix, qui peut permettre la paix. Parce que, entre eux, on voit avec les grandes bassines, on voit l'accès aux ressources qui deviennent de plus en plus rares, vont créer des conflits. Les millions de personnes qui vont être poussées hors de leur terre, qui vont devenir des migrants climatiques, vont créer aussi des conflits. Comme on dit, l'industrie fossile, elle fonctionne aussi grâce et elle s'alimente sur des conflits armés. Donc se dire que faire le choix d'une société écologique, c'est aussi faire le choix de la paix.
Tu vis de ce que tu fais ?
Non, je fais plein de choses à côté. Je fais des petits boulots à côté. J'ai beaucoup de chance, je peux me permettre d'écrire un livre, de jouer un peu des textes au théâtre, de donner des cours à droite à gauche.
Tu fais des confs aussi ?
Je fais des conférences.
T'as fait un
TEDx. On n'est pas payé quand on fait des.
Alors c'est quoi un TEDx en fait ?
C'est une conférence un peu.
Sans prompteur ?
Non, enfin prendre tout par cœur.
Ah. Donc t'avais appris par cœur.
J'ai appris 17 minutes par cœur. Mais je racontais mon histoire et celle de l'agriculture, donc elle me tenait très à cœur.
Mais je l'ai vu. Enfin, j'en ai vu un gros bout. Oui. J'ai vu ce que tu racontais de la pomme pour un croc, tout le voyage qu'elle faisait pour 70 centimes. C'est des exemples très parlants, ça. Ça devrait parler aux gens. C'est qui dans la salle ?
Là, c'était marrant parce que dans la salle, c'est ma toute première prise de parole publique. Et il y avait dedans, il se trouve, des banquiers, dont un banquier qui gérait, je ne sais même plus quelle énorme banque, mais une des plus grandes banques mondiales, quoi.
Française.
Et je me suis retrouvée, même mondiale, ils avaient leur siège en France. Et je me suis retrouvée après invitée dans cette chose complètement folle où je me suis retrouvée sur une place financière, comme ça, à parler avec. Que des types en costume qui avaient pour moi tous le même costume, qui étaient sur leur téléphone, qui n'écoutaient pas. Et c'était entre deux conférences.
Qui n'écoutaient pas, merde.
Ils me disaient, il va falloir, tiens, t'as 10 minutes pour les. Et au début, personne ne regarde ce que je faisais. Et donc là, j'ai pris mon courage de main et je suis allée parler dans le vide et je leur ai balancé des chiffres et des tripes. Et bon, j'en ai quand même qui ont relevé la tête et qu'on a bousculé quelques-uns.
Camille, Étienne, merci beaucoup d'être venu. Bravo surtout pour ce que tu fais. Et puis,
merci de donner cette.
C'est fou d'avoir autant d'expérience à ton âge, c'est ça, mais c'est triste en même temps. Tu vois, ça veut dire qu'il y a vraiment besoin et puis ta vie va être. T'es cuite, c'est-à-dire qu'en fait, ta vie va être
dirigée,
faite pour ça.
Va être dirigée, mais notre vie à tous, on c'est un combat, donc on va mener peut-être chaque instant, peut-être même des générations encore après. Et en même temps, il peut être beau parce qu'on est du côté du beau, on se bat pour le beau, on bat pour ce qu'on aime, on bat pour la paix, pour la liberté, donc il n'y a rien de plus belle existence que ça pour moi, finalement.
Tu as raison. Eh bien, écoute, j'espère que vous allez être et que nous serons tous de plus en plus nombreux à nous rendre compte que tout ça, c'est juste entre nos mains, quoi. Et je vais même te dire, tu sais, moi, j'ai l'âge de ton père, hein, je pourrais être ton père, hein, tranquillement. Et ça me fait drôle de dire, je peux être ton pote aussi. Et je peux être ton copain.
Ah, ça me fait très plaisir.
Voilà, mais je le pense vraiment. Donc, j'espère qu'on va devenir copain.
Mais je sens qu'on va devenir copain, on va devenir en balance.
C'est déjà un peu fait. OK, à bientôt.
À bientôt.
Porte-toi bien. Et je chante même. De sa belle chasse copain. De sa belle chasse copain.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about UnitedHealthcare insurance plans at uh1.com.